Le deuxième règle, et puis il y aura le temps après pour si vous avez des questions sur ces règles. Le deuxième règle, c'est encore je vais raconter une histoire. Quand j'étais au Japon, ouais, j'ai fait 2 heures de langue, non pas 2 heures, 2 ans, 8 heures par jour. Et puis après, en plus, on ne peut pas vraiment parler. On peut parler des choses concrètes, un livre, une table, une montre, surtout les montres au Japon, les voitures. Parce que dans les langues d'école, on ne donne pas le vocabulaire pour parler du sens de la vie. Mais si je suis allé au Japon, c'était de découvrir le peuple japonais et je voulais comprendre justement ce qui les faisait vivre, quel était le sens de la vie pour eux. Alors, après 3 ans, quand même, on peut aborder les choses, on a l'avantage d'avoir des amis. L'amitié est très importante, on va dire. Quand on a des amis, on peut se rendre vulnérable beaucoup plus facilement. Les amis vous acceptent. On commence à parler de sens. Et puis tout d'un coup, vous avez une catastrophe, un tsunami spirituel, intellectuel, tout c'était terrible, parce que je comprenais absolument rien. Et puis il répétait, mais ça c'était terrible parce que ça n'aidait pas non plus. Et puis il l'expliquait, c'était encore pire parce que ça n'aidait pas non plus, parce qu'ils utilisaient des mots que j'avais pas entendus pour expliquer des mots que j'avais. Et finalement, dans le désespoir, ils ont écrit ces mots sur une feuille, avec les idiogrammes, les caractères sino-japonais. Pas avec ça, avec la prononciation, ce qui est très important. Pas si simple de trouver un idiogramme quand on ne sait pas comment ça se dit. Quand j'avais ça, armé, je reviens chez moi, j'avais tous mes dictionnaires japonais-anglais, j'ai fait jouer comme des écoliers. J'avais la liste des termes à gauche en japonais, j'ai mis les correspondants en anglais. Puis enfin, j'ai dit, maintenant je vais comprendre ce qu'ils disent. Et je regarde ma liste en anglais, et tous les mots venaient du vocabulaire chrétien. J'ai compris pourquoi après, parce que les premiers dictionnaires japonais-anglais étaient faits par les chrétiens. Et le fait est qu'il n'y a pas d'équivalent pour les mots qui parlent de sens dans le contexte japonais. Il n'y a pas d'équivalent en anglais, il n'y a pas d'équivalent en français non plus, il n'y a pas d'équivalent dans les langues occidentales. Il peut y avoir en chinois parce que c'est le même caractère, tout. Et c'était terrible ça. Je dis, mais ces gens ne sont pas chrétiens, j'avais pas un ami chrétien. Et quand je lis tous ces mots-là, je comprends tout à fait parce que c'est comme s'ils étaient chrétiens. Alors, vous allez voir les jésuites. Les jésuites, ils font un travail extraordinaire au Japon depuis des années et des années. J'explique le problème, ils disent, bah oui, bien sûr, c'est évident. Comment c'est évident? J'ai étudié le japonais 3 ans et je ne peux pas comprendre le peuple. Il dit, bah oui, c'est comme ça. C'est pas possible. Il doit y avoir une moyenne. Il dit, oui, mais ce n'est pas simple. Je dis, mais dis-moi ce que c'est. Il faut étudier les religions du Japon. J'ai étudié les religions du Japon. Oui, ils ont dit, mais oui, la base, c'est 2 ans. J'ai dit, d'accord, parce que quand même, c'est très frustrant de ne pas comprendre. Donc, j'ai étudié le bouddhisme, le confucianisme, le shinto et tout ça. Et là, on commence à comprendre ce que disaient les jésuites. Il n'y a pas d'équivalent dans notre langue à nous. Mais quand on entre à l'intérieur de leur cohérence interne, avec l'aide des professeurs, peu à peu, on voit comment un terme, un concept donné se situe dans le contexte bouddhique et on comprend plus ou moins ce que ça veut dire. Et puis on comprend aussi la terrible difficulté qu'ont eu les gens qui ont fait les dictionnaires, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. On a cherché quelque chose qui était plus ou moins proche. Plus ou moins proche ne compte pas quand on veut communiquer avec les gens. Donc, la règle, les 3 premiers mots sont les 5 premiers mots. Il faut avoir l'humilité, ça c'est le verbe. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y aura toujours un écart entre l'expérience de l'autre, pour moi c'était le bouddhiste, le confucien, le shintoïste, etc., et ce que je peux comprendre de cette expérience-là, on s'est dit dans ma langue à moi. Vous voyez le problème? Il faut avoir la grande humilité de reconnaître qu'il y aura toujours un écart entre l'expérience spirituelle de l'autre, quand cette expérience est exprimée dans mes mots à moi, dans ma langue à moi. Autrement dit, j'ai dû mettre un X sur le principe des dictionnaires bilingues. Ça ne tient pas la route. Il n'y a pas des équivalents pour entrer dans cette tradition pour comprendre ce que ces mots veulent dire. Je crois que c'est vrai ici en France. Aussi, les mots sont très importants, les mots. Mais on est sauvé par les premiers mots, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre, en ce qui concerne l'Extrême-Orient, le sanskrit, le pali, le chinois, le japonais, le tibétain, etc. Sinon, c'est impossible. Pour l'islam, est-ce que ça veut dire qu'il faut apprendre l'arabe avant qu'on peut dialoguer avec les musulmans? Non, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a un problème. Et puis, la réponse à ces questions se trouve dans des livres qui sont faits par les spécialistes, parce que les spécialistes